Radio Prague, les informations.
Ce jeudi, le Premier ministre tchèque Jiří Paroubek sera reçu à Vienne par le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel. Deux minutes de silence seront observées ce jeudi en République tchèque. Des spécialistes tchèques participeront probablement à l'élaboration d'un plan territorial pour Bassora. Ce jeudi, le Premier ministre tchèque Jiří Paroubek sera reçu à Vienne par le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel. À la veille de la visite, les adversaires autrichiens de l'atome ont adressé aux deux représentants une lettre ouverte les invitant à négocier sur la mise hors service de la centrale nucléaire de Temelín située dans le sud de la Bohême. On notera que les mesures de sécurité relatives à Temelín font l'objet d'un protocole qui avait été conclu entre l'Autriche et la République tchèque en décembre 2000. Ce mercredi, le cabinet tchèque a adopté deux accords en vue de faciliter la circulation à la frontière tchéco-autrichienne. Ces documents avaient été précédemment ratifiés par le cabinet autrichien. Encourager la coexistence quotidienne dans les régions limitrophes des deux États est l'un des objectifs de ces accords. L'édification de nouveaux passages frontières n'est pas pour autant prévue. Deux minutes de silence seront observées ce jeudi à 13h en République tchèque, une façon de se joindre à l'acte de piété en hommage aux victimes des récents actes terroristes à Londres. Des spécialistes tchèques participeront probablement à l'élaboration d'un plan territorial pour Bassora, en Irak du Sud. Une information fournie par le vice-ministre des Affaires étrangères, Petr Kolář. Ce dernier a eu des conversations avec une délégation de la ville de Bassora, venue en Tchéquie à l'invitation du maire de la ville de České Budějovice, Miroslav Teter. Le cabinet a trouvé un consensus en ce qui concerne la future eurocampagne qui sera lancée en République tchèque. Contrairement au plan initial, elle ne portera pas uniquement sur le traité constitutionnel européen, mais aura un champ d'action plus large. Le cabinet a donné son aval au projet de loi sur le loyer soumis par le ministère de l'Aménagement territorial. Ce projet stipule l'augmentation des loyers régulés à partir d'octobre 2006. Ceux-ci sont appliqués à près de 750 000 logements. Selon une étude du groupe financier Raiffeisen, le marché bancaire en Europe centrale et orientale a connu l'année dernière une croissance rapide. Au cours des 5 premiers mois de cette année, la police a enregistré en République tchèque près de 143 000 actes criminels, dont 76 assassinats. Il s'agit d'une baisse de plus de 4% par rapport à la même période de l'année écoulée. Météo, un ciel à moitié dégagé, des températures autour de 26 degrés sont prévues pour ce jeudi, qui est marqué dans le calendrier tchèque comme le jour de fête de Carolina. Pourront apparaître des orages ou des averses locales. C'était le bulletin d'information présenté par Alena Gebertova.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Merci à tous d'écouter Radio Prague. À la une de l'actualité, les derniers chiffres concernant l'emploi en République tchèque. Le taux de chômage serait le plus faible de ces trois dernières années. Ancien correspondant de La Voix de l'Amérique à Vienne et proche collaborateur pendant 6 ans de l'ex-président tchèque Václav Havel, Ivan Medek fête ce mercredi ses 80 ans. Son parcours de vie hors du commun dans cette émission. Nous parlerons aussi de Škoda, qui est cette année voiture officielle du Tour de France, ou encore d'un projet du Sénat visant à fonder l'Institut tchèque de la mémoire. D'après les statistiques publiées mardi par le ministère du Travail et des Affaires sociales, le chômage en République tchèque a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2002. Mais les difficultés augmentent pour les chômeurs de longue durée et pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Quelques chiffres et explications avec Alexis Rosenzweig.
Avec un taux de chômage à 8,6%, la République tchèque peut se targuer d'avoir la plus faible proportion de demandeurs d'emploi comparée à celle de ses voisins slovaques et polonais, eux aussi membres de l'UE depuis un an. Ce taux est d'ailleurs légèrement en dessous de la moyenne des 25 pays de l'Union, une moyenne située à 8,8% en mai dernier. Et selon le ministère tchèque du Travail, les emplois saisonniers dans les secteurs de la construction et des eaux et forêts permettent de maintenir ce taux relativement bas, ainsi que l'implantation de multinationales qui ont besoin de main-d'œuvre pour leurs nouvelles usines. Mais si les chiffres du chômage sont relativement bons en République tchèque, avec moins de 500 000 demandeurs d'emploi, certaines catégories de la population active sont durement touchées. Dans son édition de mercredi, le quotidien économique Hospodářské noviny mettait en effet l'accent sur les problèmes des chômeurs de longue durée et des chômeurs de plus de 50 ans. Ces derniers représentent désormais le quart des demandeurs d'emploi. Le nombre de personnes au chômage depuis plus d'un an a quant à lui augmenté de près de 50% en 4 ans. Aujourd'hui, environ 214 000 personnes sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'une année. Les autorités supposent qu'un certain nombre d'entre eux travaillent au noir. Le ministère a d'ailleurs calculé que deux célibataires vivant dans une grande ville ont un niveau de vie équivalent si l'un travaille, payé au salaire minimum, et si l'autre est au chômage avec allocation et aide au logement. Pour remédier à cela, le ministre du Travail a présenté un projet de loi censé être favorable aux chômeurs qui cherchent activement un emploi. Dans son projet, Zdeněk Škromach a également fait de la reconversion des chômeurs une vraie priorité pour que les plus âgés aient des arguments à faire valoir sur le marché du travail.
En République tchèque pourrait être créée une nouvelle institution examinant les crimes du communisme. L'initiative d'un groupe de sénateurs, avec Jiří Liška du Parti civique démocrate en tête, vise à fonder l'Institut tchèque de la mémoire. Il serait chargé de coordonner l'action des institutions qui étudient le passé communiste et de diffuser des informations sur le totalitarisme, surtout parmi les jeunes. La seule institution active en la matière en République tchèque est l'Office de l'enquête sur les crimes du communisme, UDV. Mais justement au niveau de la diffusion d'informations, ses compétences sont limitées, comme l'explique son représentant Tomáš Bursík. Les documents publiés par l'UDV ne sont pas mis en vente, ils sont distribués aux bibliothèques et aux archives, mais les gens ne peuvent pas les acheter, a-t-il dit à la presse. L'Institut tchèque de la mémoire serait donc avant tout un centre de recherche sur l'histoire contemporaine, mais il serait également autorisé à donner au public l'accès au dossier de l'ancienne police secrète communiste, la STB. Jusqu'à présent, c'était le privilège de l'office UDV, contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Le fait que l'Institut de la mémoire, en tant qu'institution indépendante, serve d'intermédiaire entre le peuple et son passé, constitue un atout aux yeux des instigateurs du projet. L'Institut de la mémoire n'est pas une nouveauté en Europe centrale et orientale. Écoutez la cinéaste tchèque Kristina Vlachová qui tourne depuis la chute du rideau de fer des documentaires sur les crimes impunis du communisme.
Tato instituce existuje v Polsku, Maďarsku, v Rumunsku, Bulharsku.
Cette institution existe en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Allemagne bien sûr, et depuis peu de temps aussi en Slovaquie. L'ancien ministre tchécoslovaque de l'Intérieur, Jan Langoš, qui dirige l'Institut slovaque de la mémoire, m'a proposé le poste de réalisatrice et de responsable artistique au sein de son équipe, puisqu'il aime bien mes films. J'étais très heureuse et émue et j'ai accepté. Cela fait un peu plus d'un an que j'y travaille, je tourne parallèlement 14 documentaires. On fait ce qu'on peut, parce que depuis 15 ans, pas un seul film sur les crimes du communisme n'a été réalisé en Slovaquie. L'Institut slovaque de la mémoire, dont les recherches sont par ailleurs étalées même sur le passé fasciste du pays pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait sans doute besoin d'un organisme partenaire tchèque et vice-versa. 75 ans d'histoire commune, ce n'est pas rien. Les sénateurs commenceront à élaborer le projet de loi sur la fondation de l'Institut de la mémoire en septembre prochain. Vous le savez peut-être, la marque automobile Škoda est à l'honneur cette année en France. Elle a été désignée voiture officielle du Tour de France. Et notre correspondant parisien, Jiří Slavíček, s'en réjouit.
La popularité du Tour de France, la plus longue course cycliste par étapes du monde, reste intacte, malgré ses turpitudes avec les affaires du dopage. Le Tour de France a réussi sa mondialisation, expliquent les médias français. L'audience de la plus belle course du monde est en croissance, constatent les spécialistes en marketing, tandis que les nombreux parents au bord des routes de la course expliquent aux enfants que le drôle d'accent sur le S des voitures officielles n'est rien d'autre que, je cite, Notre accent circonflexe à l'envers. Tout le monde toutefois est d'accord que Škoda, qui fournit pour la deuxième année consécutive plus de 250 voitures officielles de la course, s'en sort gagnante. La marque a non seulement gagné d'une année à l'autre ici 13 points de notoriété, mais ses ventes en France ont grimpé de 12 000 voitures en 2003 à 17 000 l'an dernier. Les Français surnomment toujours affectueusement le vélo par le sobriquet la petite reine. Mais je trouve dommage, pardon Škoda, que sur le vélo dans le peloton, il n'y a qu'un seul coureur tchèque, Pavel Paternost. Pardon, en français, Paternos. Mais c'est à son honneur, il est membre de l'équipe en tête, menée par l'Américain de tous les records, le plus connu en France, Lance Armstrong. De Paris pour Radio Prague, Iris Lavicek.
Ivan Medek, ancien rédacteur de la station de radio La Voix de l'Amérique, mais aussi chef du bureau de l'ancien président de la République, Václav Havel, fête ses 80 ans. Plusieurs quotidiens tchèques consacrent une large place à l'anniversaire de cette personnalité pas comme les autres, Alain Silvanski.
Náš viedenský dopisovateľ Ivan Medek sa hlási s najnovšími aktualitami z Československa.
Československo je bez predu zájmu svetové vedy. Zásadní politické změny sú nezbytné. Aktivizuje sa celá spoločnosť, včetne nekomunistických stran.
Dans le quotidien lidové Noviny, Jaroslav Weiss, journaliste et écrivain, dresse un portrait d'Ivan Medek intitulé « L'homme et sa voix » qui devait être réduit au silence. Pourquoi l'homme et sa voix ? Parce que Ivan Medek, nous l'avons dit, s'est fait connaître par les émissions de la station de radio La Voix de l'Amérique. Après une enfance sans histoire, dans une famille respectant la morale et le sens de la responsabilité, à côté d'un frère, Mikulash, bientôt célèbre grâce à ses talents de peintre, Ivan Medek, ne voulant se soumettre à aucune camisole du pouvoir, communiste à l'époque, est contraint à l'exil. Après avoir vécu maintes péripéties, des interrogatoires dans les bureaux de la police d'État communiste, de nombreux emplois, dont celui d'aide infirmier dans un hôpital, il se retrouve à Vienne, dans un petit studio de La Voix de l'Amérique. Il devient le correspondant viennois de la station, d'une certaine manière le correspondant tchécoslovaque, du moins de cette partie de la Tchécoslovaquie que le pouvoir communiste s'efforçait de réduire au silence. À la différence de Radio Europe Libre, La Voix de l'Amérique n'était pas brouillée et représentait l'une des rares sources d'informations libres dans un pays vivant sous un régime totalitaire. Jaroslav Weiss se souvient d'une émission d'Ivan Medek. On était en été 1989, les régimes communistes s'effondraient en Europe. En Tchécoslovaquie, il était plus que branlant. Ivan Medek avait persuadé la direction de La Voix de l'Amérique qu'il serait bon de diffuser sur les ondes la liste des signataires de la pétition contre le régime, quelques phrases. Cette liste de noms, lue par Ivan Medek tous les jours, contribua à l'affaiblissement du régime et sa chute à la fin de l'année 1989. En effet, elle avait montré que les citoyens tchécoslovaques n'avaient plus peur. Une fois élu président de la République, ce fut Ivan Medek que Václav Havel choisit pour devenir le directeur de son bureau au château de Prague. Ivan Medek a accompli cette fonction avec brio pendant 6 ans. Aujourd'hui, il travaille en tant que pigiste pour la BBC. Tout juste avant son 80e anniversaire, la maison d'édition Torst a sorti son livre de souvenirs intitulé « Merci, je me sens très bien ». C'est un livre qui a vu le jour grâce à une série d'émissions radio réalisées par l'un de ses collègues des ondes, Ivan Binar, ancien rédacteur aux émissions tchèques de Radio Europe Libre. Ivan Medek, à la fin du livre, constate avec un certain humour qui est le sien « En fait, je n'ai jamais désiré quelque chose de concret et je me suis toujours mêlé à tout. J'ai l'impression quand même d'avoir reçu un grand nombre de cadeaux sans aucun mérite. » La simplicité émane de cet octogénaire que des gens ne reconnaîtraient peut-être pas dans la rue, mais dont des milliers, des dizaines de milliers, reconnaîtraient certainement la voix, celle de l'ancien rédacteur de La Voix de l'Amérique, celle qui apportait une bouffée d'air du monde libre.
Deux actualités culturelles encore en fin de ce magazine. Si vous allez à Prague, je vous invite à faire un tour à la basilique des Saint-Pierre et Paul à Vyšehrad. Une exposition permanente y a été ouverte, consacrée aux joyaux en or et en argent, ainsi qu'aux tissus précieux, vieux de plusieurs siècles. Il s'agit pour la plupart d'objets religieux faisant partie des collections du chapitre de Vyšehrad et du Musée national. Enfin, un festival international de musique d'orgue se déroule tout au long de l'été à la maison municipale de Prague, Obecný dům. Chaque concert est précédé d'une visite guidée de la salle d'audience du maire, décorée par Alphonse Mucha. C'était Fais événements en République tchèque par Magdalena Segertova. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
L'histoire tchèque connaît plusieurs Venceslas, ducs, princes et rois. Celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui n'est pas le plus connu d'entre eux, Saint Venceslas, patron des Tchèques, que son frère Boleslav Ier le Cruel, avide de pouvoir, a fait assassiner à Stará Boleslav en 935. Il sera question de Venceslas II, le dernier des rois tchèques de Přemyslid avec lequel la dynastie s'est éteinte. 700 ans se sont écoulés depuis sa mort le 21 juin 1305. L'état de Přemyslid atteignit son apogée sous le règne de Přemysl Otakar II, surnommé le roi d'or et de fer, pour ses richesses et ses succès militaires. Le pouvoir de ce roi de Bohême s'étendait alors loin au sud, jusqu'à l'Adriatique, et le souverain se mit même à aspirer à la couronne impériale. Son différend avec le candidat concurrent au trône Rodolphe Ier de Habsbourg fut finalement tranché par une guerre et la bataille de Marchfeld, près de Vienne, dans laquelle le roi de Bohême, abandonné par une partie de la noblesse tchèque, fut vaincu. Il y perdit non seulement l'espoir d'obtenir la couronne impériale, mais également sa propre vie. Son fils, Venceslas Mineur, ne pouvait pas prendre le pouvoir, c'est le margrave de Brandebourg, Othon, qui fut nommé son tuteur. Devenu adulte, Venceslas rétablit la prospérité économique des pays tchèques, notamment en encourageant l'extraction de métaux et le monnayage. Ainsi, en 1300, Venceslas fonde dans la ville de Kutná Hora, riche en minerais d'argent, l'hôtel de la monnaie qui prendra le nom de cour des Italiens, d'après ses constructeurs. Là, une monnaie unique à l'échelle du royaume est frappée, le groschen de Prague. Mais revenons au commencement. Venceslas vient au monde le 27 septembre 1271. Son enfance n'est pas heureuse. Après la mort de son père, il est interné avec sa mère Kunhuta au château de Besdies par son tuteur. Après que sa mère soit parvenue à s'évader, il grandit dans un isolement presque total. En 1283, il est libéré de sa captivité par les États tchèques et retourne en Bohême où son règne commence la même année. Au début, le règne de Venceslas II subit la forte influence de l'époux de sa mère, Zawisze de Falkenstein, qui a une position dominante à la cour, et ce jusqu'à la mort de sa mère, grâce aux intrigues des seigneurs réunis autour de l'évêque Tobias de Bechigne. En 1289, Zawisze est arrêté et un an plus tard exécuté. En 1291, Venceslas II entreprend une expansion en Pologne où il occupe de vastes territoires, ce qui lui ouvrira la voie vers la cour polonaise. Il réussit effectivement à se faire couronner roi de Pologne en 1300 et sa prétention est scellée par le mariage avec Elisabeth Rejczka, héritière du trône de Pologne. En 1301, après l'extension de la dynastie des rois hongrois Árpád, Venceslas II accepte la couronne magyare. Ainsi, pendant un certain temps, un seul souverain de Bohême règne sur trois pays, la Bohême, la Pologne et la Hongrie. En plus de cela, Venceslas réussit à rattacher à la couronne de Bohême une partie de la Saxe et la région de Chèbe. Avec l'arrivée du pape Bénédicte XI, les pressions sur l'affaiblissement du pouvoir des Przemyslites en Europe centrale augmentent. Ces pressions se soldent par la perte de la couronne magyare en 1304, puis par une expédition de l'empereur allemand Albrecht Ier de Habsbourg en Bohême. Peu après la victoire des troupes tchèques sur Albrecht, le roi Venceslas tombe malade et il est emporté subitement par une tuberculose le 21 juin 1305. Quant à son jeune fils Venceslas III, mystérieusement assassiné l'année suivante, il disparaît sans héritier. La dynastie des Przemyslites s'éteignit donc par le fer en 1306 et son hégémonie sur la marche orientale de l'Empire arriva à son terme. Le chaos succéda au règne du dernier Przemyslite. Cette situation arrangeait les seigneurs féodaux de Bohême, notamment pour accroître leur fortune, mais elle menaçait aussi les biens de l'Église, qui considérait comme un impératif de renforcer le pouvoir royal. Des négociations agencées par l'abbé cistercien Conrad résultent par la montée sur le trône de Bohême de la dynastie des Luxembourg. Jean de Luxembourg, alors âgé de 14 ans, est désigné nouveau souverain de Bohême. Le mariage avec Élisabeth, sœur du dernier des Przemyslites, assit le pouvoir de Jean en l'imposant auprès de l'aristocratie locale. Arrêtons-nous encore un instant sur la politique intérieure du roi Venceslas II, non moins brillante que celle menée à l'étranger. Après avoir surmonté la crise économique des années 1280, un essor sans précédent se produit. La preuve en est la frappe de l'une des monnaies les plus fortes d'Europe médiévale, le groschen de Prague. Sous le règne de Venceslas II, le couvent des Cisterciens est fondé à Prague, dans le quartier de Zbraslav. À l'époque de l'essor le plus important de l'extraction de l'argent à Kutná Hora, le roi Venceslas promulgue le code royal minier, Jus Regale Montanorum, qui détermine les bases de l'industrie minière. En vertu de ce code, le roi dispose librement des ressources minières, il a le droit à une quote-part de la production et son administration accorde des licences d'exploitation. La promulgation de ce code est suivie d'une réforme monétaire lorsque le roi décide de lancer une monnaie unique à l'échelle du royaume. Venceslas II fut deux fois marié. Avec la première épouse, Gutta de Habsbourg, il eut 10 enfants, et de son mariage avec Elisabeth Rejczka est née sa fille Agnès. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir et à la prochaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.